de Maxime Gorki, Les Vagabonds. Tchelkash, chapitre 1. La poussière qui monte du port ternit la limpidité du ciel. Le soleil, flamboyant sur la mer glauque, semble voilé d'une gaze légère. Son reflet arrive comme brisé sur les flots, dont la surface est sans cesse troublée par les coups de rame, par le remous des hélices des navires à vapeur, par l'étrave des felouks turcs ou des voiliers, sillonnant sans relâche les trois bassins. Captive entre les granites de la côte, écrasée par les charges qu'elle supporte, les vagues, dont la crête écumante est souillée d'impureté, déferlent contre les vaisseaux et les quais. On dirait qu'elles murmurent et se battent entre elles. Une harmonie puissante, mère du travail universel, emplit les airs. Une harmonie faite du grincement des chaînes, du roulement des wagonnets chargés de marchandises, de la chute gémissante des lames de fer sur les pavés, du sifflet aigu ou grave des navires à vapeur, des appels des débardeurs, des marins et des douaniers. Cette clameur se prolonge, semble s'attarder dans le ciel, comme prise de la peur de disparaître en s'élevant. Inlassablement, la terre exhale de nouveaux bruits, toujours les mêmes, des grondements sourds qui ébranlent le sol, des sifflets stridents qui vibrent dans l'air brûlant, alourdi de poussière. De tout cela, pierre, métal, bois, des vaisseaux et des hommes, monte un cantique ardent, éperdu vers la divinité de l'argent. Mais la voix humaine, que l'on distingue à peine, est étrangement faible et aussi ridicule que les hommes eux-mêmes, auteurs de ce grand fracas. Vêtus de guenilles sordides, courbés sous le faix, ils grouillent dans la poussière tourbillonnante, dans la chaleur et dans le bruit. Ils semblent ainsi des pygmées minuscules à côté des monstrueuses machines de fer au milieu desquelles ils s'agitent, parmi les wagons roulants et tous les engins dont ils furent pourtant les inventeurs. Esclaves de leur œuvre, ils ont perdu, par elle, toute personnalité. Les lourds vaisseaux ancrés dans le port halètent et sifflent, et chacun de leurs soupirs profonds paraît une raillerie à l'égard de ces hommes qui se traînent sur le pont et entassent dans les flancs du navire le produit de leur labeur servile. En longue file, les débardeurs s'avancent, grotesques et lamentables. Ils portent sur le dos d'énormes sacs de blé. Ils vont les déposer dans les entrailles de fer des bateaux, et cela leur vaudra les quelques livres de pain indispensables à l'apaisement de leur estomac, criant famine. Terrible et cruelle ironie des choses. Les hommes demi-nus, ruisselants de sueur, écrasés de fatigue et de chaleur, étourdis par le bruit. Les machines, éclatantes, puissantes et insensibles. Ce n'est pas, vraiment, la vapeur qui leur donne la vie. Ce sont les muscles et la moelle des hommes qui leur fournissent un aliment. Il y a tant de bruit, tant de poussière, que les narines et les paupières en sont irritées. Les hommes sont harassés de lassitude. Il semble que dans l'atmosphère surchauffée, frémissante, se prépare une soudaine et effroyable catastrophe, une explosion qui va rendre l'air plus respirable et plus pur, qui libérera la terre apaisée de tout ce bruit exaspérant, de cette angoisse déprimante. Alors, la terre et la mer et le ciel apparaîtront tranquilles et pacifiés. Hélas! Ce n'est là qu'une espérance vaine, une espérance en laquelle se complaît perpétuellement l'humanité, dans son rêve éternel et stérile d'affranchissement. 12 coups de cloche s'égrenèrent, sonores et cadencées. Comme le dernier expirait, l'âpre harmonie du travail avait déjà diminué de moitié. Une minute après, elle n'était plus qu'un murmure confus. La voix des hommes et la voix de la mère se firent plus distinctement entendre. L'heure du repas avait sonné. Chapitre 2. Cessant le travail, les débardeurs, en bandes tapageuses, s'enfuirent à travers le port, achetant des victuailles aux marchands de déquets établis en plein air et cherchant des coins ombragés pour déjeuner par terre. C'est alors que survint, parmi eux, ce vieux loup sauvage qui avait nom Grishka Telkash. Maintes fois, il avait eu maille à partir avec la police. Chez les habitants du quartier du port, il était considéré comme un ivrogne invétéré, doublé d'un voleur audacieux et adroit. Il marchait nu-tête et nu-pied, vêtu d'un pantalon de velours râpé et d'une blouse en étoffe légère, complètement en lambeaux. Par les trous, on apercevait la peau brune de son cou, tendue sur des os en saillie et qui remuait. Ses cheveux noirs embroussaillés où brillaient quelques fils blancs, l'aspect fripé de son visage anguleux d'oiseau de proie, témoignait qu'il sortait à peine du sommeil. Deux fétus de paille pointaient, l'un à travers sa moustache, l'autre dans sa barbe mal rasée. Une fleur de tilleul, encore fraîche, pendait à son oreille. Très grand, très maigre, un peu voûté, il marchait tordant le nez et cherchant des yeux quelqu'un parmi les débardeurs. Les poils noirs de sa moustache touffue s'agitaient à la façon de la moustache d'un chat, cependant que derrière son dos, il crispait ses mains aux doigts noueux. Bien qu'ils fussent là des centaines de va-nu-pieds comme lui, on ne pouvait le confondre avec les autres. Sa maigreur ascétique, la souplesse de sa démarche, en apparence indolente, mais en réalité inquiète et nerveuse comme le vol d'un épervier de la steppe, tout contribuait à lui donner avec cet oiseau une ressemblance troublante. Comme il passait devant un groupe de vagabonds couchés à l'ombre des bannes à charbon, un gros garçon à face naïve s'avança vers lui. Il portait, sur la figure et sur le cou, des marques rouges et des égratignures qui attestaient une rixe récente. Tout en marchant côte à côte avec Telkash, il lui murmura à mi-voix « Les gabelous du port ne peuvent arriver à retrouver deux caisses de marchandises. Ils les cherchent. M'entends-tu, Grishka ?»« Eh bien, » interrogea Telkash, le toisant tranquillement du regard. « Comment, eh bien ? Ils cherchent. Je t'avertis simplement. »« Ont-ils fait appel à moi pour les assister dans leur enquête ?» Et Telkash, se disant, eut un sourire ironique en regardant les entrepôts de la marine. « Que le diable t'emporte » ajouta-t-il. Et comme son interlocuteur s'éloignait, « Attends un peu » reprit-il encore. « Tiens, qui donc t'a arrangé de cette façon ? Tu as toute la façade détériorée. Dis-moi, as-tu aperçu Mishka par ici ?»« Il y a bien longtemps que je ne l'ai rencontré. » lui cria l'autre qui vint reprendre sa place parmi les débardeurs. Telkash poursuivit son chemin. Partout il était accueilli amicalement, mais lui-même semblait n'avoir point ce jour-là cette gaieté railleuse qui lui était habituelle. De fort mauvaise humeur, il répondait d'un mot rapide à toutes les interjections. D'un rempart de marchandises surgit un douanier. Il semblait, dans son uniforme vert foncé couvert de poussière, une incarnation de l'inflexible discipline militaire. Il se mit en travers du chemin, devant Telkash, menaçant, la main gauche sur la poignée de son épée, cependant que, de la droite, il s'efforçait de prendre le vagabond au collet. « Halte là » dit-il. « Où vas-tu » Telkash fit un pas en arrière, regarda le douanier, et se contenta de sourire. Le douanier fit un effort pour donner un air terrible à sa figure colorée de bon vivant aimant à rire. « cramoisi, gonflant les joues, fronçant les sourcils, roulant des yeux furibonds, il était ainsi tout à fait comique. « Je t'ai déjà averti, n'essaie pas de pénétrer ici ou je te romps les côtes » hurla-t-il d'un ton féroce. « Bonjour, Seminitch, il y a vraiment longtemps que je ne t'avais vu !» répondit Tchelkash avec flegme en lui tendant la main. « Pour ma part, je me dispenserai bien de jamais te voir !» répondit le douanier. « Passe ton chemin !» Cependant, il serra la main tendue vers lui. Tchelkash lui étreignit les doigts, et tout en les secouant familièrement dans sa main noueuse, il reprit. « Il faut que tu me dises quelque chose. N'aurais-tu pas vu Mishka ?»«
Qui ça, Mishka ? Je ne connais pas Mishka. »«
Va-t'en, frère, car si l'inspecteur te voit, il te... »«
Mishka, le rouquin qui fut jadis mon compagnon de travail sur le Kostroma !»
poursuivit Tchelkash impassible.
« Ton compagnon de rapine, veux-tu dire ? Eh bien, il est à l'hôpital, ton Mishka. Il s'est laissé tomber une barre de fer sur la jambe. Et maintenant, frère, va-t'en, je te le demande, sans quoi je serais forcé de te chasser sous les coups. »«
Tiens, tu disais tout à l'heure, je ne connais pas Mishka. Tu vois bien que tu le connais. De quoi es-tu fâché, Seminitch ?
Ça suffit, Grishka, assez de balivernes, et tire-toi d'ici. »
La colère commençait à s'emparer du douanier. Tout en regardant à droite et à gauche, il tentait de se dégager de la rude étreinte des doigts de Tchelkash. Celui-ci, souriant dans sa moustache, le dévisageait à travers les péridots de ses cils, et maintenant prisonnière la main de Seminitch, il poursuivait son discours.
« À quoi bon me presser ? Je m'en irai quand j'aurai fini de parler avec toi. »
« Donne-moi donc de tes nouvelles. Ta femme et tes enfants sont-ils en bonne santé ?» Il découvrit ses dents en un sourire ironique, et, clignant malicieusement des yeux, il reprit. « Maintes fois j'ai projeté d'aller te voir, mais je ne trouve jamais le temps de le faire. Je suis constamment ivre. »«
Bien, bien, laisse-moi tranquille. Assez plaisanté, mauvais diable décharné. »
« Sans cela, frère, je vais... Mais dis-moi, comptes-tu réellement mettre au pillage les demeures privées et les rues ?»«
À quoi bon ? Pardieu, il y a ici assez pour nous deux. »«
À propos, Seminitch, il paraît que tu as chapardé encore 2 caisses de marchandises. Prends garde, de la prudence, ami. Fais attention à ne pas te laisser pincer un de ces jours. » L'audace impudente de Tchelkash mit le comble à la fureur indignée du douanier. Il tremblait de tous ses membres. Il était incapable de prononcer un mot et se contenta de cracher à terre. Alors Tchelkash, lui ayant lâché la main, s'enfuit de son pas souple et tranquille vers la porte du port. Le douanier le suivit en jurant comme un damné. Le vagabond avait retrouvé toute sa gaieté. Sifflotant entre ses dents, plein d'indolence, les mains dans les poches de son pantalon, en paisible promeneur, il marchait, échangeant au passage avec les uns et les autres des réflexions amusantes et railleuses.
« Quel vénard ce Krishka !» lui cria un des débardeurs qui, leur repas terminé, paraissait couchés à terre. « Quel vénard ce Krishka ! Ces messieurs de la police veillent sur lui !»
« C'est que, » répondit Tchelkash, « comme je n'ai pas de souliers, Seminitch a eu peur que je ne m'abîme les pieds. » Il était arrivé près de la porte. 2 gardiens le fouillèrent, puis le poussèrent dehors sans brutalité. « Maintenez-le !» cria Seminitch, qui s'était attardé dans la cour du port. Tchelkash vint s'asseoir de l'autre côté de la voie, sur une borne, devant un cabaret. Une longue file de voitures, chargées de marchandises, sortait du port avec un bruit assourdissant. Dans l'autre sens, arrivaient au galop d'autres voitures vides dont les cochers sautaient sur leurs sièges. Un grondement de tonnerre montait dans un nuage épais de poussière. On eût dit que la terre tremblait. Excité par sa discussion avec Seminitch, Tchelkash se sentait heureux de vivre,
dans ce milieu brutal auquel il était accoutumé. Il entrevoyait pour un avenir prochain un gros bénéfice qui n'exigerait guère de force ni de ruse. Au surplus, il se savait amplement muni de l'un et de l'autre de ces deux éléments de succès. Clignant des yeux, il escomptait d'avance la noce du lendemain. Lorsque, la besogne terminée, des liasses de billets gonfleraient ses poches. Sa pensée alla ensuite au camarade Mishka, dont il aurait réclamé cette nuit l'aide précieuse, sans ce fatal accident qui lui avait coûté la jambe. Et Tchelkash étouffa un juron à l'idée que l'absence de Mishka allait peut-être entraver la réussite de son expédition. Que serait la nuit ? Tchelkash inspecta le ciel, puis abaissa ses regards vers la rue. À quelques pas de lui, assis sur le trottoir, adossé à une borne et allongeant les pieds sur la chaussée, était installé un jeune paysan vêtu d'une blouse bleue et d'un pantalon de même couleur, chaussé de sabots et coiffé d'une casquette jaunie. À ses côtés se trouvaient un petit sac et une faux démontée, entourés de foin et méticuleusement ficelés. C'était un fort gars, aux épaules carrées, aux cheveux blonds, au teint hâlé et brûlé par le vent de la steppe. De ses larges yeux clairs, pleins d'une confiance naïve, il examinait familièrement Tchelkash. Celui-ci commença par le fixer avec insistance, lui tira la langue et découvrit ses dents avec une grimace effroyable. Le jeune paysan, stupéfait, ferma les yeux, puis soudain se mit à pouffer de rire en criant « Ah ! Qu'il est amusant !» Après quoi, sans prendre même la peine de se lever, il rampa, en quelque sorte, jusqu'à la borne de Tchelkash, tout en tirant derrière lui son sac dans la poussière et en heurtant sa faux sur les pavés. « Hé, frère » dit-il à Tchelkash en tâtant le pantalon du vagabond. « Mais t'as vu que tu as dû faire une noce carabinée ?» En effet, jeune drôle, en effet, répondit Tchelkash avec bonhomie. Ce gars solide, dont les yeux ingénus trahissaient une âme d'enfant, lui plut spontanément. Il reprit. Tu viens de faire les foins ? Oui, j'ai fauché une verste entière pour gagner un copec. Les affaires vont mal, il y a trop de monde. Des crèves-la-faim sont venues qui ont gâté les prix. Autrefois, on touchait 60 copecs à Coubagne, et dans le temps, paraît-il, on obtenait 4 roubles, parfois 5. Dans le temps, on payait 3 roubles pour avoir le droit de regarder seulement un vrai russe. Il y a quelque chose comme 10 ans, j'en avais fait mon commerce. En pénétrant dans un village, je m'écriais « Moi, je suis russe !» Aussitôt, chacun d'accourir, de m'examiner, de me palper, de m'admirer, et cela mettait 3 roubles dans ma poche. Par-dessus le marché, on me donnait à manger et à boire, et on me suppliait de rester aussi longtemps que cela me plairait. Le gars écoutait Tchelkash discourir. Il était d'abord demeuré bouche bée, une expression de surprise et d'admiration peinte sur sa large face ébahie. Comprenant enfin que ce déguenillé racontait des hâbleries, il ferma la bouche et partit d'un immense éclat de rire. Tchelkash, imperturbablement sérieux, dissimulait dans sa moustache son hilarité. « Quel phénomène tu fais ! » dit le paysan. « On jurerait que tu dis la vérité. Moi, je t'écoutais avec confiance. Mais sérieusement, je t'assure que là-bas, dans le temps... « Et moi, je te dis comme toi, je t'assure aussi que, dans le temps, là-bas... »« Va au diable !» dit le jeune paysan avec un geste découragé. Puis il ajouta, « Dis-moi, es-tu cordonnier ? Es-tu tailleur ?»« Moi ?» interrogea Tchelkash. Il réfléchit un moment avant de répondre, puis déclara, « Je suis pêcheur. »« Pêcheur ? Est-ce sérieux ?» Que pêches-tu ? Du poisson ? Pourquoi du poisson ? Les pêcheurs de ces parages ne cherchent pas seulement cela. La plupart du temps, grâce à des lignes faites exprès pour ce genre de pêche, nous ramenons des noyers, des ancres perdues, des bateaux coulés, bref, toutes sortes de choses. Inventez blague à ton aise. Ne serais-tu pas plutôt de ces pêcheurs qui chantent en parlant d'eux-mêmes? Pour nous, lançons nos filets sur les rives desséchées, sur les hangars et les bergeries.
Tu les connais, ceux-là?
Questionnait Tchelkash avec un regard ironique en face de la stupidité évidente de ce bon garçon.
Ma foi, je n'en ai jamais vu, mais j'en ai ouï parler.
Te plaisent-ils?
Pourquoi me déblairaient-ils? Ils vivent libres et sans crainte.
Bah, que parles-tu de liberté? Elle t'est précieuse, ta liberté?
Comment n'y pas tenir? Être son seul maître? Aller où va votre désir? Agir à sa guise?
Parbleu, c'est le rêve! À la condition de se bien tenir et de ne pas se perdre soi-même. On peut ainsi faire la noce autant que l'on veut, pourvu qu'on ne s'écarte pas de Dieu.
Méprisant, Tchelkash cracha à terre et, tournant le dos au paysan, cessa de l'interroger.
« Moi, par exemple, » continuait le gars en s'animant soudainement, « mon père, en mourant, m'a laissé un bien infime. Ma mère est âgée, le sol est épuisé. Que veux-tu que je fasse? Il me faut vivre.
Comment? Mystère.
Parbleu, j'aurais bien accepté d'entrer comme gendre dans une famille riche si le père avait voulu donner une dot à sa fille. Mais ce damné beau-père ne veut rien savoir pour partager sa fortune. Alors quoi? Me faudra-t-il trimer pour son bénéfice pendant de longues années? Comprends-tu ma situation? Ah, si je pouvais me trouver à la tête de quelques 150 roubles, je serais plus fort. Je pourrais dire au vieux, consens-tu à donner une dot à Marfa?
Non.
Ça va bien, grâce à Dieu, il n'y a pas qu'elle de fille à marier dans le village.
De la sorte, je fusse resté libre et mon seul maître.
Ah oui.
Le jeune paysan eut un soupir.
Hélas, actuellement, je ne puis faire autrement que d'entrer dans une famille. Je m'étais dit, je vais à Coubagne, je gagne au moins 200 roubles, je suis sauvé, je suis quelqu'un.
Bah, roulez, l'affaire est dans l'eau. Il me faudra donc me résigner à me marier pauvrement et à végéter comme un esclave, puisque je possède trop peu pour vivre de mes propres ressources.
Hélas. Cette perspective d'épouser une jeune fille riche qui continuerait à demeurer dans sa famille paraissait horripiler le jeune garçon, au point qu'une expression de tristesse et d'ennui se répandit sur son visage. Il s'agitait sur le sol, ce qui attira de nouveau sur lui l'attention de Tchelkash, qui, pendant ce monologue, était resté plongé dans ses réflexions personnelles. Bien qu'il ne ressentît aucun plaisir à poursuivre cette conversation, Tchelkash demanda néanmoins
« Alors, où vas-tu maintenant ?»«
Où je vais ?»
Chez moi, naturellement.
Pourquoi, naturellement?
Tu n'aurais pas envie d'aller en Turquie?
En Turquie, répéta le gars d'une voix traînante. Est-ce que les chrétiens vont en Turquie?
Espèce d'idiot, murmura Tchelkash.
Il se tut à nouveau et se détourna, bien résolu cette fois à ne plus adresser la parole à ce rustre solide qui faisait naître en lui un sentiment indéfinissable. Un trouble étrange, lent à se préciser, quelque chose qui ressemblait confusément à du dépit, l'étreignait jusque dans ses fibres les plus intimes, lui rendait tout recueillement impossible et l'empêchait de songer à ses projets de la nuit. Le paysan, vexé de l'insulte, grommelait à demi-voix des paroles désobligeantes et, par instant, jetait à Tchelkash des regards de travers. Il gonflait ses joues, faisait la moue et clignait des yeux d'une façon tout à fait cocasse. Très certainement, il n'avait pas cru que l'entretien avec cet individu à grande moustache pût finir si brièvement et sur une telle humiliation. Tchelkash ne lui portait plus aucune attention. Très préoccupé, il sifflotait, assis sur sa borne, tout en battant la mesure avec son talon nu et poussiéreux. Le paysan crut le moment venu de prendre sa revanche. « Hé, le pêcheur » commença-t-il. « Te saoules-tu souvent ?» Il dit, mais soudain le pêcheur, se tournant de son côté, lui demanda avec brusquerie. « Écoute, jeune drôle, cette nuit, veux-tu travailler avec moi ? Allons, réponds vite !»« À quel travail ?» interrogea le paysan d'un ton méfiant. « Je te le dirai, nous irons à la pêche. Toi, tu rameras. » « Si c'est cela, pourquoi pas ? Ça va, je ne demande pas mieux que de travailler. Seulement, vois-tu, ne risque-t-on pas de mal tourner avec toi ? Tu as des airs mystérieux qui ne me rassurent guère. » Tchelkash eut l'impression d'une brûlure à la poitrine et répondit avec une fureur contenue « Ne te mêle pas de ce que tu ne peux pas comprendre. Sans quoi j'aurais vite fait de t'asséner sur la tête un de ces coups de poing qui éclaircissent instantanément les idées des hommes tels que toi. » Il se mit debout d'un bond. De sa main gauche, il tira nerveusement sa moustache, il crispa son poing droit, dur comme du fer, et sous la peau, on vit se gonfler ses veines noueuses. Un éclair brilla dans ses yeux. Le rustre eut peur. Il interrogea les environs d'un regard rapide et timoré et se redressa à son tour. Les deux hommes se toisèrent en silence. « Eh bien ? » interrogea rudement Tchelkash. Un ferment de colère brouillait en lui. Ce jeune veau venait de l'insulter. Il l'avait d'abord méprisé en causant avec lui, il le haïssait maintenant. Il haïssait en lui la pureté de ses yeux couleur du ciel, le hâle de sa face de paysan. Il haïssait la force de ses bras courts, mais il haïssait aussi cet enfant parce qu'il possédait un village et une maison dans ce village, là-bas, dans un coin de la terre, parce qu'une famille s'offrait à l'accepter pour gendre. Enfin et surtout, parce que cet être, un gamin auprès de lui, Tchelkash, prétendait aimer la liberté. La liberté dont il était incapable, pourtant, d'apprécier la valeur, et qui ne lui pouvait servir à rien. L'homme est ainsi fait. Il admet malaisément qu'un individu, qu'il considère comme son inférieur, devienne son égal en partageant ses affections ou ses haines. Le jeune paysan contemplait Tchelkash. Il pressentait en lui son maître. « Mais, reprit-il, c'est entendu, j'accepte. Ce que je cherche, en somme, c'est du travail, peu m'importe que ce soit pour toi ou pour un autre. Si j'ai parlé de la sorte, frère, c'est que tu n'as pas beaucoup l'aspect d'un homme qui travaille. Tu es vraiment un peu trop dépenaillé. Mais, au fond, ce sont les choses qui peuvent arriver à tout le monde. On croirait que je n'ai jamais vu un ivrogne. Dieu sait pourtant que j'en ai connu bon nombre et de plus endurci que toi. » « À la bonne heure, » répondit Tchelkash d'une voix adoucie. « Alors, c'est conclu. »« Certes, et bien volontiers. Dis-moi, combien payes-tu ? » ?
Cela dépendra du travail que nous aurons à faire et de l'importance de nos prises. Il se pourrait que je te donne 5 roubles. Comprends-tu ? »
Mais dès l'instant qu'il était question d'argent, le paysan tenait à ce que les choses fussent bien établies, et il lui apparaissait nécessaire d'avoir un engagement formel de la part de son nouveau patron. Toute sa méfiance reparut, et soupçonneux, il déclara « Cette combinaison ne me plaît pas beaucoup, frère. Ces 5 roubles, je préfère les toucher tout de suite. » Tchelkash inaugura son rôle de chef.
« Assez discuté, dit-il. Un peu de patience. Entrons au cabaret. »
Côte à côte, ils descendirent la rue. Tchelkash affectait des airs importants de patron et se faisait la moustache. Le paysan marchait, en dissimulant, sous une soumission apparente, toute sa méfiance timorée.
« Quel est ton nom ? » demanda Tchelkash.
« Gavrilo, répondit l'autre. Ils entrèrent dans un bouge. L'air y était en puanti de fumée. Tchelkash marcha droit au comptoir et, familièrement, à la façon d'un client fidèle, il commanda une bouteille d'eau-de-vie, de la soupe aux choux, un rôti
du thé. » Quand il eut ainsi fait son menu, il conclut brièvement par ces mots « À crédit !» Silencieusement, le garçon inclina la tête. Devant la confiance que son nouveau maître inspirait à tous, en dépit de ses allures d'escarpe, Gravillo sentit naître en lui un sentiment de respect profond pour cet homme, si avantageusement connu partout.
« C'est fait !» dit Tchelkash. « Nous allons casser une croûte. Nous causerons après.
Attends-moi une minute, je vais revenir. »
Il sortit. Gavrilo inspecta l'endroit où il se trouvait. C'était un bouge établi dans un sous-sol. Une obscurité humide y régnait et l'air était vicié par la fumée de tabac, les relents de goudron et une odeur étrange, comme rancie. Un homme ivre, à barbe rousse, était assis à la table qui faisait vis-à-vis à celle de Gavrilo. Il portait un costume de marin souillé de charbon et de taches de cambouis. Il grasseyait d'une voix fausse, sifflante et pleurnicharde, une chanson dont il estropiait les paroles. Un hoquet continu l'agitait. Il était évident que ce n'était pas un Russe. Derrière lui, deux femmes de Moldavie, très brunes, au teint hâlé, vêtues de haillons, psalmodiaient aussi une chanson d'une voix aigre. Dans le fond de la pièce, émergeant encore de l'obscurité, apparaissaient des visages étranges, des chevelures en désordre, qui appartenaient à des gens ivres, énervés, des faces de déséquilibrés. Gavrilo, effrayé de sa solitude, se prit à désirer le retour de son maître. Tous les bruits dans le cabaret semblaient s'unifier en une seule note. On croyait entendre le rugissement d'une bête formidable douée de 100 bouches furieuses, cherchant vainement, en un effort désespéré, une issue pour s'évader de cette geôle de pierre. Gavrilo s'efforçait inutilement d'observer autour de lui. Quelque chose qui tenait du vertige obscurcissait ses yeux, alourdissait sa pensée et l'enivrait à la fois. Tchelkash rentra. Tout en causant, ils commencèrent à boire et à manger. Au troisième verre, Gavrilo était ivre. Il devint gai. Il cherchait une parole aimable pour ce brave homme de patron qui lui offrait un régal si splendide avant même d'avoir fait usage de ses services. Mais sa langue, empâtée par l'ivresse, se refusait à proférer les mots qui lui venaient en foule à la gorge. Tchelkash l'examinait. Il eut un sourire ironique. « Te voilà déjà mûr ? » dit-il. « Pas possible ! Pour 5 malheureux petits verres ! Mais tu ne vas pas pouvoir travailler !» Gavrilo bafouillait. « Aie pas peur, ami, je travaillerai pour toi. Ah, comme je vais bien travailler pour toi ! Il faut que je t'embrasse, veux-tu ?
Ça va bien, ça va bien. Encore un verre. »
Gavrilo but. Bientôt, il vit tout tourner devant lui, en cercle régulier, ce qui ne laissait pas que de lui faire mal au cœur d'une façon très désagréable. Il prit un air d'inspiration hébété. Il voulait parler, il ne pouvait couvrir la bouche, d'où s'échappaient des sons rauques. Tchelkash le dévisageait, semblant évoquer un souvenir. Il frisait sa moustache et souriait encore, mais d'un rictus cruel et menaçant. Un grand bruit d'ivresse emplissait le bouge. Le matelot roux s'était endormi sur la table, la tête contre le bras.
« Sortons !» ordonna Tchelkash en se levant.
Gavrilo essaya de l'imiter. Ce fut en vain. Il poussa un juron terrible, puis se mit à rire, d'un rire abruti d'ivrogne.
« Tu es propre !» dit Tchelkash, qui se rassit en face de lui.
Gavrilo continuait à rire, fixant ses regards sur son patron. Celui-ci l'étudiait froidement et avec attention. Il sentait qu'il avait là un homme dont la vie désormais était entre ses griffes de fauve. Et en lui-même, il se savait de force à l'utiliser pour ses besoins. À sa guise, il pouvait l'anéantir comme il eût fait d'une feuille de papier,
ou l'aider à se créer une place définitive et paisible dans son village. Il se complaisait en cette idée qu'il était vraiment maître et seigneur de cet homme, et pensait que ce paysan ne connaîtrait jamais les plaisirs et jouissances dont lui-même, Tchelkash, avait épuisé la coupe au cours de sa vie. Cette jeune nature inexpérimentée lui inspirait à la fois de l'envie, de la pitié, de l'ironie et une sorte d'attendrissement. Lorsqu'il réfléchissait qu'elle retomberait, sans doute, en des mains aussi impitoyables que les siennes. Et tout cela se résumait en un sentiment paternel et dominateur. Il plaignait ce rustre parce qu'il lui était nécessaire. Alors Tchelkash prit Gavrilo par le bras et, le poussant tout doucement, il le fit sortir du bouge et l'étendit à l'ombre d'une pile de bois. Après quoi, il s'assit à ses côtés et alluma sa pipe. Gavrilo se retourna un instant, grogna, puis s'endormit. Chapitre 3. Eh bien, es-tu prêt ? Dit Tchelkash à Gavrilo, comme celui-ci prenait les rames en main. À la minute ! Un des tollés remue. Puis-je l'enfoncer en tapant dessus avec une rame ?
Non, non, pas de bruit. Remets-le en place en appuyant avec les mains.
Les deux hommes maniaient le plus silencieusement possible une barque amarrée à l'avant d'un voilier. Tout autour était groupée une flottille de bateaux chargés de bois de chêne et des felouks turcs que l'on n'avait encore qu'à moitié débarrassés de leur cargaison de bois, palmiers, santal et cyprès. La nuit était noire. Des nuages épais et lourds éparpillaient leurs haillons en lambeaux sur la voûte du ciel. La mer immobile offrait l'aspect opaque d'un océan d'huile. Une saveur humide et salée s'en dégageait. Elle chantait timidement en caressant les rochers de la côte et les flancs des navires. La barque de Tchelkash était lentement balancée par elle. Au loin, vers la pleine mer, se détachaient les silhouettes noires des grands navires, dont les mâts pointaient vers le ciel, terminés à leur extrémité par des fanaux de couleurs variées. Ces lumières se reflétaient dans les flots, et la mer semblait ainsi parsemée de points jaunes, tremblant sur le velours épais de sa surface. Elle se soulevait à intervalles réguliers, comme si elle eût respiré avec force. Elle dormait d'un sommeil paisible et fort, à la manière d'un travailleur épuisé par une journée de labeur, écrasant. « En avant !» dit Gavrilo. Les rames attaquèrent l'eau. « Nageons !» D'un violent coup d'aviron, Tchelkash fit glisser la barque entre deux bateaux. Il ramait vigoureusement. Au contact des lames de bois, l'eau semblait s'illuminer d'un éclair bleuâtre et phosphorescent. Le bateau laissait derrière lui un sillage lumineux comme un serpent de feu. « Eh bien ?» interrogea Tchelkash avec bonhomie. « Souffres-tu toujours beaucoup de la tête ?»« Affreusement. Il me semble qu'elle contient une cloche. Je vais l'arroser avec un peu d'eau. »«
Pourquoi faire ? Arrose-toi plutôt l'intérieur. Cela te fera plus de bien. »
Et Tchelkash tendit une fiole à Gavrilo.
« Crois-tu ? » dit celui-ci.
« Que Dieu me bénisse !» Un joyeux glouglou se fit entendre.
« Eh, mais tu abuses de la permission, ça suffit !» cria Tchelkash en l'arrêtant.
La barque reprit sa course silencieuse et rapide dans le dédale des bateaux. Subitement, elle se dégagea de leur masse, et aux yeux des rameurs, la mer libre s'étendit à perte de vue, majestueuse et étincelante. À l'horizon, elle se confondait avec le ciel. De la surface des flots, montaient des amoncellements de nuages violacés, bordés de lisières jaunes, glauques comme la mer elle-même, ou bien encore couleur d'ardoise, ternes comme les torpeurs de l'ennui qui s'appesantissent parfois sur l'esprit et les pensées. Les nuages chevauchaient lentement les uns sur les autres, semblant parfois se souder en une masse unique et parfois se séparant brusquement. Ils confondaient leurs formes et leurs teintes, se dissociaient et se reformaient avec des contours nouveaux, grandioses et tragiques. On sentait comme un souffle fatal dans ce mouvement de choses inanimées, et l'on avait l'impression que, perpétuellement, d'autres nuages s'élèveraient des horizons de la mer, d'autres nuages innombrables qui monteraient dans le ciel afin de cacher cruellement derrière leurs rideaux opaques ces millions d'yeux d'or que sont les étoiles aux multiples reflets, les étoiles rêveuses et vivantes qui éclairent les flots assoupis et apportent aux hommes, extasiés devant leur lumière sacrée, les désirs purs et nobles.
« Est-ce beau, la mer ?» dit Tchelkash.
« Pas laid, » répondit Gavrilo, « mais ce n'est pas rassurant d'être dessus. » Il ramait vigoureusement et en cadence. Le bruit des avirons heurtant les flots s'entendait à peine, cependant que se prolongeait le sillage phosphorescent et argenté.
« Pas rassurant ! Quel niais !»
murmura Tchelkash avec mépris. Lui, malfaiteur cynique, aimait la mer. Le spectacle de cette immensité sans bornes, sans frein et sans entrave, flattait l'ardeur de son tempérament assoiffé de sensations violentes. Et la réponse de Gavrilo le froissait comme un outrage à la splendeur de cette mer qu'il aimait. Tout en tenant le gouvernail, il fendait les flots de son coup de rame, et, les yeux perdus dans un rêve, il sentait en lui grandir un désir ardent de flotter longtemps encore sur cette nappe de velours. Lorsqu'il était en mer, son âme s'imprégnait d'une émotion puissante et tiède qui la purifiait en quelque sorte des ignominies de la vie. Il savourait avec joie le plaisir de se sentir meilleur entre les flots et le ciel. Dans cette atmosphère, et il éprouvait un adoucissement à l'amertume de ses pensées, et la vie lui apparaissait moins précieuse. La mer, durant la nuit, soupire légèrement comme si sa respiration était endormie, et ce murmure apporte à l'homme un souffle de paix, le détourne de ses penchants pervers et le porte aux aspirations saines.
« Mais dis donc, où sont tes filets ?»
interrogea subitement Gavrilo qui inspectait le contenu de la barque. Tchelkash sursauta.
« Le filet est là, au gouvernail. »«
Quelle espèce de filet est-ce donc ?» reprit Gavrilo méfiant.
« Un épervier et... »
Soudain, une honte envahit Tchelkash. À quoi bon mentir à cet adolescent et lui déguiser ses intentions ? D'autre part... Il regrettait les rêves auxquels la question du jeune paysan l'avait arraché. Une colère le prit. Il éprouva à la poitrine cette sensation de brûlure qu'il connaissait bien. Une contraction subite le serra à la gorge. Brutalement, il jeta ces mots à Gavrilo.
« Tu es là, ça va bien, reste-y. Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Je t'ai emmené pour ramer. Rame, et tiens ta langue si tu ne veux pas que cela tourne mal pour toi. » M'as-tu compris ?
Un instant, la barque immobilisée suspendit sa course. Les rames cessèrent de battre l'eau écumante et Gavrilo, inquiet, s'agita sur son banc.
« Rame ! »
Un juron énergique fouetta l'air. Gavrilo appuya sur les avirons. La barque, comme frappée de terreur, bondit par soubresauts rapides, irréguliers, faisant bruyamment clapoter les flots.
« Mieux que cela !»
commanda Tchelkash. Il se dressa, et sans lâcher sa rame, il plongea un instant l'éclair de son regard froid dans les yeux de Gavrilo, pâle et dont les lèvres frémissaient de peur. Ramassé sur lui-même, courbé en avant, Tchelkash ressemblait ainsi à un chat prêt à bondir. Il grinçait furieusement des dents et fit craquer les os de ses mains.
« Qui va là ?»
Impérieusement, cette question résonna sur la mer.
« Ah, démon, veux-tu ramer ? Sans bruit ! Ah, chien, je te crèverai ! Rame donc ! Une, deux ! Essaye de crier ! Je t'éventre ! »
grondait Tchelkash.
« Vierge Marie, balbutiait Gavrilo, terrorisé et épuisé de fatigue et de peur. La barque vira légèrement et se dirigea vers le port, où les falots multicolores se pressaient dans les mâtures.
« Ohé ! Qui crie par là ?»
interrogea de nouveau la voix. Mais elle était plus éloignée. Tchelkash reprit son assurance.
« Mes camarades, c'est toi qui crie !»
lança-t-il dans la direction d'où était venu l'appel. Puis, se tournant vers Gavrilo, qui continuait à marmotter une prière, il ajouta « Oui, petit frère, tu as eu de la veine. Si ces démons nous avaient couru su, c'en était fait de ta peau. Tu m'entends? Je t'eusse immédiatement expédié aux poissons. » Tchelkash parlait maintenant paisiblement et presque avec bienveillance. Gavrilo, qui tremblait encore de peur, le supplia.
« Je t'en prie, laisse-moi partir. Laisse-moi partir, par le Christ. Dépose-moi n'importe où. Oh là là, je suis complètement perdu. Songe à Dieu. Laisse-moi. Que veux-tu de moi? Je ne puis pas t'aider en tout ceci. Je n'ai jamais fait de pareilles choses. Seigneur Dieu, c'est la première fois. Je suis perdu. Ah, frère, que m'as-tu fait pour m'entraîner de la sorte? Parle, tu perds mon âme, c'est un crime. Hélas, quelle aventure !»«
Quelle aventure ? » demanda durement Tchelkash.
« Réponds, quoi ? Quelle aventure ?»
Il se divertissait de la peur de ce rustre et éprouvait une jouissance à l'idée que c'était lui, Tchelkash, qui avait su provoquer une telle frayeur.
« Une aventure ténébreuse, frère ! Au nom de Dieu, délivre-moi ! Que suis-je pour toi, ami ?»«
Silence ! Ne comprends-tu pas que si je n'avais pas eu besoin de toi, je ne t'aurais pas emmené ? Ainsi donc, tais-toi !»«
Mon Dieu ! » gémit Gavrilo en pleurant.
Oh, assez ! » Mais Gavrilo, incapable de se contenir davantage, sanglotait désespérément. Il gémissait, se mouchait, se remuait sur la banquette, tout en continuant à ramer avec l'énergie du désespoir. La barque filait comme un trait. À nouveau, la masse noire des vaisseaux leur barra la route, et le frêle esquif, tournoyant sur lui-même comme une toupie, s'engagea dans les passages étroits qui les séparaient les uns des autres.
« Oh là, fais attention à ce que je vais te dire. Si ta peau t'est précieuse, tais-toi. Si qui que ce soit nous interpelle. M'as-tu compris ?»«
Hélas !» gémit pour toute réponse Gavrilo. Puis il ajouta « Il était écrit que je perdrais mon âme avec toi. »
« Ne meugle pas !» dit Tchelkash d'une voix étouffée.
Cette réponse acheva d'abrutir Gavrilo, qui se résigna dans l'attente glaciale d'un malheur. D'un geste automatique, il plongeait ses rames, les lançait derrière lui, les sortait de l'eau, les lançait à nouveau, et demeurait les yeux fixés sur ses sabots d'écorce. Il y avait une menace sombre dans le bruit des vagues assoupies. Ce fut le port. Derrière la muraille de granit parvenaient des bruits divers, voix d'hommes, murmures de l'eau, des chansons et des sifflets aigus.
« Stop !» murmura Tchelkash. « Lâche les avirons. Appuie les mains au mur. Doucement, animal !»
En s'arc-boutant contre la paroi glissante, Gavrilo fit glisser la barque le long du mur, silencieusement, le bord frôlant la mousse gluante du granit.
« Arrête !» reprit Tchelkash. « Passe-moi les rames. Donne-les ici. Où as-tu mis ton passeport ? Dans ton sac ? Passe-moi le sac. Plus vite que ça. Mon bon ami, ceci est pour m'assurer que tu ne te tireras pas d'ici. Comme cela, je te tiens. Même sans les rames, tu aurais filé. Mais tu n'oseras pas le faire sans ton passeport. Reste là. Mais rappelle-toi que si tu profères un mot, je te rejoindrai, quand bien même tu serais caché au fond de la mer. »
Et Tchelkash, subitement, saisissant quelque chose des deux mains, s'éleva dans l'air, puis disparut à la crête du mur. Gavrilo eut un frémissement. Cela s'était fait si rapidement. il lui sembla que le lourd manteau de terreur qui pesait sur lui, en compagnie de ce forban à grandes moustaches et à face décharnée, venait de se détacher et de tomber de ses épaules. Maintenant, il fallait fuir. Avec un soupir de délivrance, il inspecta les lieux autour de lui. À gauche, un vaisseau noir dématé, semblable à un énorme cercueil vide qu'on aurait abandonné là. Chaque fois qu'une vague venait battre sa carcasse, il en sortait un soupir grave, comme un écho assourdi. À droite, plongeant dans l'eau ainsi qu'un serpent lourd et froid, se prolongeait le mur humide du port. En arrière, d'autres masses noires de navires pareilles à des squelettes, et devant, entre le mur et le vaisseau cercueil, s'étendait la solitude silencieuse de la mer que surplombaient des nuages noirs. Ces nuages rampaient, massifs, lents et lourds, terrifiants par leur ombre, et prêts, semblait-il, à s'appesantir sur les hommes pour les écraser. Une impression sinistre flottait dans l'air, glaciale et ténébreuse. La frayeur de Gavrilo redoubla. Cette peur panique dominait encore la crainte que Tchelkash lui inspirait. Une angoisse l'étreignait à la poitrine et l'étouffait à tel point qu'il n'était plus qu'une loque humaine, lamentable, affalée sur un banc de la barque. Alentour, c'était l'universel silence. Hormis la plainte de la mer, pas un bruit. On avait l'impression qu'un cataclysme terrible, furieux et bruyant allait rompre ce calme. Un cataclysme qui soulèverait la mer jusqu'au plus profond de sa masse, qui mettrait en déroute aux quatre coins du ciel les troupeaux sombres des nuages, et qui disperserait dans l'infinie solitude des flots tous ces vaisseaux noirs. Les nuages continuaient à progresser dans le firmament, aussi péniblement que tout à l'heure. Mais sans cesse, ils s'en élevaient de nouveau du sein de la mer, si bien que le ciel paraissait lui-même une mer démontée et furieuse, renversée au-dessus de l'autre, silencieuse, paisible et endormie. Certains nuages avaient l'aspect de vagues, courant à l'assaut de la terre en secouant leurs crêtes grisâtres. D'autres paraissaient des abîmes profonds que le vent aurait creusés entre les lames. Et d'autres encore ressemblaient à des ondulations naissantes du flot avant qu'elles aient déferlé en un couronnement d'écume verdâtre. Ce calme tragique et grandiose dominait Gavrilo. Il comprit que ce qu'il souhaitait avant tout, c'était le retour de son maître. Il tardait bien à revenir. Les minutes passaient plus lentement encore que les nuages qui se traînaient dans le ciel. Mais soudain, derrière le mur, il y eut un clapotis d'eau, puis un glissement et une sorte de murmure. Gavrilo faillit tomber inanimé de peur. « Eh bien, dors-tu ? Attrape, doucement !» dit Tchelkash d'une voix assourdie. Un objet pesant, de forme cubique, descendait en frôlant le mur. Gavrilo le posa dans la barque. Un autre colis semblable suivit. Alors, sur la crête du mur, s'allongea la longue silhouette de Tchelkash. Les rames reparurent, comme par enchantement. Le sac de Gavrilo vint tomber à ses pieds, puis Tchelkash en personne, tout essoufflé, reprit sa place au gouvernail. Gavrilo le dévisagea en souriant, à la fois joyeux et timoré. « Tu es fatigué ? » demanda-t-il. « Parbleu, un peu, jeune veau. Rame vigoureusement, de toute ton énergie. Ton bénéfice sera gros, frère. Voilà la moitié de l'affaire terminée. À présent, il ne nous reste plus qu'à passer sans être vu sous les yeux de ces démons maudits. Après quoi, ton argent en poche, tu pourras t'en aller chez ta machka, car tu as une machka, hein, petitot ? » ?»« Non, » répondit Gavrilo avec peine. Sa poitrine semblait un soufflet et ses bras des ressorts d'acier. L'eau frémissait sous la barque et le sillage phosphorescent que traçait l'arrière de l'embarcation s'était fait plus large. Gavrilo était en sueur, mais il continuait à ramer aussi violemment que possible. deux fois au cours de cette nuit, il avait connu une telle frayeur que son plus ardent désir, par crainte d'une nouvelle alerte, était d'en avoir fini au plus vite avec cette besogne de damné. Toucher terre et s'enfuir loin de cet homme avant qu'il ne l'eût tué ou avant d'être jeté en prison comme complice de ses crimes. Il résolut donc de ne plus lui adresser la parole, de ne pas le contredire, de faire toutes ses volontés, et fit le vœu, s'il réussissait à s'en libérer sans difficulté, de faire chanter un Te Deum à Saint-Nicolas. Une prière éperdue lui montait du cœur aux lèvres. Mais il se dominait, haletait comme la chaudière d'un vapeur, et gardait le silence, tout en coulant des regards sournois vers Tchelkash. Celui-ci, inclinant en avant sa longue silhouette décharnée dans l'attitude d'un oiseau de proie qui se prépare à prendre son vol, fouillait les ténèbres en avant de la barque, de ses yeux d'épervier. Son nez d'aigle, menaçant, palpitait. D'une main, il gouvernait, de l'autre, tirait sa moustache, frémissant sans cesse au rictus muet de ses lèvres pincées. Tchelkash triomphait. Sa joie provenait du succès de son entreprise, de la conscience qu'il avait de sa propre valeur, et aussi de la peur panique qu'il avait inspirée à ce rustre devenu son esclave. Il songeait aussi à la fête énorme qu'il allait faire le lendemain, et se délectait dans la constatation de sa propre force et de l'asservissement de ce paysan naïf et saint. Le voyant épuisé, il se sentit ému de pitié et voulut le réconforter. « Hein, dis-moi, » interrogea-t-il avec douceur, « est-ce que tu as eu très peur ?»« Qu'importe, » répondit Gavrilo qui toussa pour étouffer un soupir. « Ce n'est plus la peine de t'empenner sur les avirons. Actuellement, c'est fini. Il ne nous reste plus qu'un mauvais passage à affronter. Repose-toi. » Obéissant, Gavrilo se redressa, passa la manche de sa blouse sur son visage trempé de sueur, puis, reprenant les rames, les replongea dans l'eau. « Attention, rame plus doucement. Tâche que les rames ne chantent pas. Il y a un passage périlleux à franchir. « Légèrement, légèrement. Dans ce coin, frère, il y a des gens qui ne plaisantent pas. S'ils s'amusaient, ce serait avec un fusil, et tu risquerais de recevoir à la tête une belle bosse, sans même avoir le temps de dire « ouf !» La barque glissait sur l'eau presque silencieusement. Seules des gouttelettes d'un bleu argenté tombaient des avirons, et au contact de la mer, elles allumaient à sa surface des petites taches de même couleur. L'ombre et le silence de la nuit semblaient encore plus intenses. Le ciel n'avait plus l'aspect d'un océan en furie. Les nuages l'avaient envahi tout entier et voilé d'un rideau lourd et opaque qui pesait au-dessus de la mer, immuable. Celle-ci, encore plus calme et plus noire, semblait moins infinie et émettait des senteurs chaudes plus violentes et plus salées. « Ah, pourquoi ne pleut-il pas ?» chuchota Tchelkash. « Nous voguerions comme protégés par un voile. » À droite et à gauche, émergeant tout noir de la masse également noire des flots, des bateaux et de grands navires dressaient leurs silhouettes immobiles et funèbres. Sur le pont de l'an II, une lumière remuait, quelqu'un marchait avec une lanterne. « La douane !» murmura Tchelkash. Depuis qu'il avait reçu l'ordre de ramer sans bruit, Gavrilo sentait à nouveau une angoisse énervée s'emparer de lui. Courbé en avant, fouillant l'obscurité, il avait l'impression de grandir. Ses os et ses nerfs étaient tendus et lui causaient une douleur sourde. Une obsession lui emplissait le cerveau. Un frémissement lui parcourait l'épiderme dans le dos, et il lui semblait qu'un millier d'aiguilles de glace lui piquaient les jambes. Une brûlure lui venait aux yeux à force d'avoir fixé l'ombre de la nuit, ces ténèbres d'où il s'attendait sans cesse à voir surgir quelqu'un qui s'écrierait « Arrêtez, bandit !»